Mon premier est un menteur. Mon deuxième est un menteur. Mon troisième est un menteur. Mon quatrième est un menteur. Mon tout est un menteur. Ce n'est pas Hitler, qui est-ce ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Matrioshka et dans cette collection qu'on aime bien se concerner aux femmes qui font le monde merveilleusement, nos matrices chéries. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir une historienne que j'aime tout particulièrement, qu'on avait déjà reçue dans Matrioshka, hein, Alia Aglan, qui est spécialiste de l'histoire contemporaine, de la guerre, mais surtout de la résistance sans la faire, comme elle le dit. C'est à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Le rire ou la vie, anthologie de l'humour résistant 1940-1945, un livre qui est paru aux éditions Folio Histoire, donc chez Gallimard. Et donc aujourd'hui, c'est en tant que matrice que nous recevons Alia Aglan, et oui, parce que elle aussi a son rôle à jouer à son échelle pour s'impliquer dans la société et apporter sa pierre à l'édifice. Et dans ce podcast, Alia Aglan nous offre un tour d'horizon de l'humour résistant durant la Seconde Guerre mondiale comme moyen de survie, comme façon d'être libre dans un cadre où tout n'était que contrainte. Je vous demande de l'écouter avec attention, c'est bien enrichissant.
Bonjour Alia Aglan.
Bonjour Sandra Freeman.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à nouveau. On vous est fidèle et vous nous l'êtes. Merci infiniment, c'est un bonheur. Le rire ou la vie, c'est ce nouveau livre que vous faites paraître aux éditions Folio Gallimard. Première question, le rire ou la vie ? Pourquoi ou ?
Alors, le titre est inspiré du texte de Georges Samprin, qui est un très beau texte, qui s'appelle « L'écriture ou la vie ». C'était pour restituer à l'humour résistant sa dimension tragique. Il ne s'agissait pas de considérer que l'humour des résistants, c'était des blagues pour rire, mais plutôt pour survivre. Et donc, dans le rire ou la vie, c'était une question de survie. C'était ça qu'il s'agissait de souligner dans le titre.
Et c'est quoi l'humour ? Vous dites que ce n'est pas des blagues. Est-ce qu'il y a des blagues ? Finalement, dans l'humour résistant, ou c'est un esprit ?
Alors, il y a énormément de blagues, mais il n'y a pas seulement des blagues. Il y a des pastiches, il y a des parodies, il y a des faux documents administratifs, il y a des caricatures, il y a toutes sortes de dessins ou des prières détournées, par exemple, le Notre Père qui devient une prière gaulliste, des chansons. Reprise du répertoire très populaire. C'est vraiment la culture populaire comme objet de transmission d'une arme qui est celle des déshérités, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas d'arme, justement. Et dès les premiers jours de l'occupation, il y a eu des textes qui ont circulé clandestinement et qui ensuite ont fait le tour du monde, comme « Les conseils à l'occupé » de Jean Texier, qui disaient de manière assez drôlatique tout ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire par rapport à l'arrivée et l'intrusion des Allemands.
Alors, par exemple, c'est quoi ?
C'est par exemple, tu peux donner du feu. On n'a jamais refusé de donner du feu, même à son ennemi, même à son pire ennemi. Mais par contre, si ton marchand de bretelles a cru bon de mettre sur sa vitrine « Man spricht Deutsch », va chez le voisin, même s'il paraît ignorer la langue de Goethe. Alors, c'est sur un ton assez léger, une sorte de cadre à cette intrusion dans l'intimité des Français, surtout des Parisiens, qui voient quand même les Allemands défiler quotidiennement sur les Champs-Élysées, s'installer dans les plus beaux hôtels, ripailler dans les restaurants de luxe, et qui ont investi absolument toute la zone nord, mais surtout Paris, la ville lumière, et ils ont mis des croix gammées, des grands drapeaux à croix gammées qui flottent sur l'Assemblée nationale. Donc de quoi quand même choquer les Français. Et ces conseils à l'occupé, c'est une manière assez douce de dire comment garder sa dignité avec l'humour qui va avec.
En fait, l'humour, c'est un peu le décalage aussi pour garder sa dignité, comme vous dites. C'est aussi le décalage pour gagner ou garder une forme de liberté.
Exactement. C'est quand on peut se moquer des vainqueurs, qui applique la loi du plus fort, hein, puisque la loi de la guerre, c'est la loi du plus fort, c'est vraiment pouvoir se moquer d'eux, c'est vraiment retrouver la liberté, en esprit évidemment, alors que les Français croulent sous les interdictions. Couvre-feu, interdiction de se rassembler, interdiction de pavoiser, toutes les interdictions, on peut les déjouer par l'humour qui est ce qui fait éclater tous les cadres de contraintes et qui fait la preuve qu'on a gardé une parcelle de liberté, au moins un cerveau libre en tous les cas.
Vous disiez l'humour c'est l'arme des hérités. Est-ce que l'humour c'est pour rendre risible ou ridicule finalement? Quand vous dites qu'on peut se moquer, ridicule ça veut dire qu'on en rit aussi.
Mais si on peut se rire de la puissance, c'est qu'ils ne sont pas si puissants que ça. Et comme arme assez, assez efficace, j'ai vu qu'il y avait un procédé qui consistait à renvoyer aux nazis leur nazisme. Par exemple, ce tract en forme de croix gammée où on distingue des bottes, qui sont donc qui sont les roues de la croix gammée, et en dessous il y a marqué Raus, ça veut dire dehors. Donc c'est une croix gammée qui est des coups de pied au cul aux occupants et en leur disant dehors. Ou d'autres caricatures qui prennent les principes racistes, par exemple le type aryen, et on voit des caricatures, le sous-titre c'est blond comme Hitler, mince comme Göring et grand comme Goebbels. Et donc c'est très efficace pour dire en réalité, si on regarde les nazis avec les principes du nazisme et du racisme qui est consubstantiel, regardez-les, à quoi ils ressemblent. Donc vous voyez, on les voit autrement, avec l'humour, on les voit autrement, on les voit comme des vainqueurs assez piètres, quand ce sont par exemple les Italiens qui sont beaucoup moqués parce que leur puissance militaire en tous les cas ne fait pas peur. Et même la puissance militaire des nazis, dans des dessins de caricature, c'est une bande de soudards qui sont absolument le contraire de ce qu'ils prétendent être, c'est-à-dire des conquérants, des guerriers impeccables.
Mais alors, cette satire-là, sous forme de caricature, les Allemands la voient. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas de censure par rapport à ça. C'est quelque chose d'assez clair, pas sous-entendu, très exprimé. C'est pas la même chose que ce qu'on va retrouver dans la littérature ou certains messages ou certains jeux de mots ou jeux de l'esprit où là on détourne le sens et c'est pas si frontal. Là, quand on est sur de la satire en image, en caricature, ça passe.
Alors toutes les caricatures sont des productions de la presse de la France Libre. Ça a été imprimé à Beyrouth, à Brazzaville, dans la presse de la France Libre qui a les moyens de rétribuer par exemple des dessinateurs, de faire appel à eux. Et donc ce sont des rubriques assez régulières que l'on retrouve dans la presse de la France Libre. Les clandestins font circuler des textes qui ne tombent pas sous les yeux de la censure, et toute la presse clandestine de toute façon circule sous le manteau. C'est le principe. Donc la censure, elle n'est pas, même pas invité à regarder ces textes, sauf quand ça imite à la perfection le ton pétainiste de gloire et d'adoration du maréchal.
Moi, j'aimerais savoir pourquoi, Alia Aglan, vous faites ce travail aujourd'hui sur cette réflexion, sur l'humour, le rire, en temps de guerre. Est-ce qu'il y a une raison à ça ?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'échos avec l'actualité qu'on vit, malheureusement, parce qu'avec la guerre en Ukraine, on a redécouvert ce que pouvait le rire contre des chars russes. Mais c'est un travail auquel je pense depuis bien plus longtemps, parce que quand j'ai commencé à travailler sur la presse clandestine, je me suis aperçue qu'à côté d'articles de fond qui dénoncent évidemment les réalités de la collaboration, les perquisitions, les arrestations, le ravitaillement de mauvaise qualité, il y avait toujours une rubrique qui était une rubrique pleine d'humour. Par exemple, Libération Nord a fait une rubrique très tôt, dès 40, sur, par exemple, nos têtes de traîtres. Et donc, ils ont fait toute une série de tout petits textes, comme des petits haïkus japonais, qui dit, voilà, celui-là, c'est le traître mondain, celui-là, c'est le traître dont on connaissait même pas le nom, etc., etc. Et donc, on a une sorte de paysage de la collaboration, un peu comme les caractères de la Bruyère, c'est-à-dire comme si c'était non seulement des choix idéologiques, mais aussi des types de caractères d'hommes qui se fourvoient en toute occasion dès que le pouvoir change de main, et eux suivent évidemment celui qui tient le manche. Hein, vous voyez, donc ça, c'est assez universel comme position. Et pourquoi aujourd'hui ça nous parle encore ? Parce que je crois que le rire est universel, l'humour est une arme universelle, et que la résistance est aussi un principe universel. Et ce qu'il y a de fort dans l'humour, c'est que ça unifie la résistance d'une certaine manière, en la rendant universelle, au-delà des querelles de partis, des colorations idéologiques qui sont différentes, des partis pris, et aussi la diversité des personnes que ça a pu rassembler. Sous la bannière de l'humour, tout le monde peut reconnaître qui est ami et qui est l'ennemi.
Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une censure aussi plus grande que... Enfin non, on ne peut pas dire ça par rapport à la France occupée d'une certaine façon, mais est-ce qu'on s'autorise... Voilà, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'autorise autant l'humour qu'avant ? Dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui on s'autorise une certaine liberté d'esprit, une mise à distance, où on est plus porté quand on est en résistance, en opposition, par une forme de colère qui fait que la mise à distance qui est l'humour nous est moins familière.
On voit bien aujourd'hui qu'il y a toute une presse satirique qu'on défend. Enfin, au moment des attentats de Charlie Hebdo, par exemple, c'est bien ça qui était attaqué, ce droit de rire de tout. Pas de presque tout, mais vraiment de tout. Et c'est ça qui a été attaqué, et c'est ce que nous avons tous défendu comme le bien le plus précieux, puisque c'est attaché à la liberté. Et non, je crois qu'aujourd'hui, l'humour est au contraire beaucoup plus... à des territoires beaucoup plus vastes, des médias beaucoup plus nombreux, et il y a des chaînes de radio qui ont des chroniques humoristiques bi-quotidiennes, ou même des chaînes de radio qui sont fondées sur l'humour, une presse satirique qui est libre. Et donc je pense que ça fait partie des fondamentaux de la démocratie. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, parce qu'on peut rire de tout aujourd'hui, évidemment dans les limites d'une certaine décence, parce qu'il ne faut pas choquer le public, mais dans une très vaste mesure, on peut rire de tout. Ce qui était parfaitement interdit sous l'occupation parce qu'on n'avait pas la liberté d'expression, on n'avait pas la liberté tout court. Donc c'était d'autant plus précieux à conserver. Et donc quand on republie ces textes aujourd'hui, on peut mesurer justement dans l'écart ce qu'on a gagné en liberté.
Alia Aglan, vous êtes historienne de la résistance.
Oui.
Pourquoi ? Est-ce que vous portez par là une sorte de mission, de volonté ? Là, vous traitez le sujet du rire cette fois, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous défendez ?
Alors, l'histoire de la résistance, elle est très fascinante pour ma génération, parce qu'on a eu la chance de pouvoir dialoguer avec des témoins, des survivants comme Stéphane Hessel ou Daniel Cordier, qu'on a côtoyés, avec lesquels on a travaillé, on a eu cette chance. Et je crois que c'est ce qui m'a attachée à ce sujet, c'était son caractère vivant et assez universel. C'est-à-dire que beaucoup de postures et de positions de la résistance sont encore valides aujourd'hui. Et c'est pour ça que je continue à travailler sur ce sujet qui me passionne et qui répond à un besoin de comprendre de quoi sont faites nos sociétés. Parce que sinon, la liberté, c'est très abstrait. Est-ce que c'est le droit d'aller et venir comme on veut ? Ben oui, ça, c'est une première définition. Mais c'est surtout une liberté de penser par nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment un des slogans, je dirais, de la résistance dès l'automne 40. Le journal Pantagruel dit, mais la résistance, c'est ça, c'est penser par nous-mêmes.
Et ça, c'est ça que vous portez quand vous donnez cours à vos étudiants à la Sorbonne ? Lorsque vous parlez, par exemple, là, dans le cadre des matrices, c'est ça que vous voulez porter avant tout ?
Exactement, c'est ce que je veux transmettre. Parce que je trouve que l'éducation, réussite des étudiants, c'est de leur apprendre à penser par eux-mêmes. Et ce n'est pas seulement un droit, mais c'est aussi un apprentissage qui se fait selon certains cadres, certaines méthodes. Et une fois qu'on maîtrise ça, on peut vraiment élaborer une pensée très puissante.
Vous êtes matrice de quoi ?
De la résistance.
Matrice de la résistance, ça veut dire quoi ?
Ben, matrice de l'histoire de la résistance telle qu'elle est encore aujourd'hui vivante et toujours d'actualité, et toujours universelle.
Vous vous sentez résistante ?
Je ne sais pas si moi je suis résistante. Non, je ne crois pas. Je n'ai pas eu l'occasion de l'être. Mais résistante dans le sens où on ne cède pas à l'air du temps, peut-être.
Attention, je t'envoie ça.
Tu me l'envoies, il faut que je l'attrape.
Ouais.
Déjà, il faut que je l'attrape.
Alia Aglan, qu'est-ce que vous voyez quand vous ouvrez, vous qui êtes matrice, qu'est-ce que vous voyez de ce que vous allez donner aux autres au travers de ce travail que vous faites depuis tant d'années et au travers de ce livre, Le rire ou la vie ?
Je vois que c'est quelque chose qui parle à tout le monde et qui est encore très vivant et très universel, cette forme d'humour, qui consiste à me demander, par exemple, ce que je vois dans une matrioshka vide.
C'est quoi votre blague préférée de la résistance, vous ? Votre préférée ? C'est pas une blague carambar, évidemment, mais la blague préférée de la résistance.
Alors moi, il y a une charade que j'adore, qui est « Mon premier est un menteur, mon deuxième est un menteur, mon troisième est un menteur, mon quatrième est un menteur, mon tout est un menteur, ce n'est pas Hitler, qui est-ce ? C'est Pierre Laval, parce que Pi ment, parce que R ment, parce que Lave ment, et parce que Al ment, et entre parenthèses, on s'en doutait.
Et voilà, j'espère que cet entretien avec Alia Aglan vous a inspiré, vous a nourri aussi sur la force de l'humour en temps de résistance. Ça peut s'appliquer en temps de guerre, ça peut s'appliquer en temps de paix aussi. C'est une façon de voir le monde et de se défendre. Les matrices, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec Matrioshka dans vos deux oreilles. Merci à Alia Aglan de nous avoir transmis sa liberté de penser. Merci pour cet échange. Plein d'esprit, c'est ça l'humour aussi. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu et à regarder la version plus courte de cet entretien en vidéo sur notre chaîne YouTube Matrioshka ou sur tous les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine matrice, pour une prochaine Matrioshka. Et continuez à suivre tous nos contenus, nos interviews de philosophes, de penseurs et de tous ceux qui ont un supplément d'âme ou d'esprit à partager, à transmettre pour nous et les générations futures. Salut ! Matrioshka.